Bon, ils peuvent revêtir une forme humaine. Dans le royaume d'en haut, nous connaîtrons toutes choses et peut-être que nous verrons les anges à qui nous avons donné à manger, sans le savoir, que nous avons reçu. Il y a des délivrances d'anges également dans nos vies, par des anges. Je pense à Daniel quand il dit « Le Seigneur a envoyé à fermer la gueule des lions ». Il a envoyé son ange fermer la gueule des lions. Je ne sais pas ce qu'il a vu, Daniel, mais dans la fosse aux lions, un ange est descendu pour dire aux lions, taisez-vous. Tout près de nous, un ange a délivré les apôtres de la prison. Il a ouvert les actes 5. Il a fait sortir Pierre qui dormait en prison. Il dort partout, lui. Gethsémané, transfiguration, partout où il est, pouf, il dort. Il a fait lever Pierre, mets tes sandales, ta ceinture, essuie-moi. Et un ange a ouvert les portes. Et là, on a eu du mal à le croire après. Vous savez l'histoire. Ils ont suivi Jésus. Ils ont servi Jésus dans sa détresse, dans le désert de la tentation. Ils servaient Jésus. Alors, un avertissement sur nos relations avec les anges. Premièrement, ne recevez jamais aucune doctrine qu'on dirait venir d'un ange. Non ? Satan se déguise en ange de lumière. Vous savez comment est venue la secte des Mormons ? Un ange, entre guillemets, hein, des gros guillemets, qui s'appelle Moroni. Il aurait parlé à cet Américain, Joseph Smith, puis lui aurait donné un autre évangile. Donc d'un ange. Et vous savez ce que l'apôtre Paul dit ? Si un ange du ciel venait vous prêcher un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, maudissez-le. La Bible, c'est clos, c'est terminé, on ne peut ajouter rien du tout. Même si un ange venait me voir demain matin en me disant « je t'apporte une nouvelle révélation » dehors. C'est fini. Il faut vraiment qu'on soit clair. Parce que ce n'est pas un ange qui va venir vous voir. C'est des gens qui vont vous dire, des anges nous ont parlé. C'est plus subtil. Parce que vous ne verrez pas un ange vous dire ça. Mais des gens peuvent dire, des anges nous ont montré quelque chose. Moi, il faut les refuser. Amen, non ?
Amen.
Avertissement, pas de culte des anges. Apocalypse, alors Colossiens 3, 2, 18, hein, il y avait à l'époque des cultes des anges. Et dans l'Apocalypse, chapitre 19, verset 10, il y a l'apôtre Jean, il est ébloui par tout ce qu'il voit, par tout ce qu'il entend, et il s'incline devant un ange qui lui dit « Mais relève-toi, je suis ton compagnon. » On est des frères, quoi. Pas de culte des anges. Ne pas prier les anges. On n'a jamais vu ça dans la Bible. Dieu seul peut être prié, parce qu'il est tout puissant, il sait tout, il est présent partout, il peut tout faire. Et il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Dans la Bible, il n'y a pas une prière, pas de prière pour les anges. Même Jésus à Gethsémané, il dit, ne pourrais-je pas invoquer mon Père qui me donnerait, mais il ne demande même pas aux anges de venir. Ne pas rechercher d'apparition d'anges. On est dans une époque où on a soif de spectaculaire. On voudrait voir. Moi, je voudrais croire surtout. Bien croire plutôt que voir. Et ne recherchons pas des apparitions d'anges, même si des anges parfois sont apparus, mais on ne les recherche pas. Parce que c'est le mystère de Dieu. Mais on peut demander au Seigneur, je l'ai fait déjà, Seigneur, dans des moments très difficiles, Seigneur, envoie un ange pour me secourir. Oui. Seigneur, secours-moi par tes anges, par ton Saint-Esprit. Même Bodin parlait du Saint-Esprit. C'est le premier. Le Saint-Esprit, infiniment plus que les anges. Oui, parce que lui, il vit en nous. C'est des serviteurs, parce que Dieu aime être servi par des serviteurs. Il partage sa vie avec d'autres. Il a des hommes, il a des serviteurs, mais le plus grand, c'est le Dieu actuellement sur terre qui fait son œuvre, c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est le plus important. C'est vrai. Il faut aussi le dire. Les anges apparaissent-ils aujourd'hui ? On arrive à la fin. Dans la première église, sont apparus à Philippe, pour qu'il ait trouvé, qu'il ait parlé à l'eunuque éthiopien. Il est apparu aussi à Pierre. Ils sont apparus à Corneille, un païen. À Corneille. Paul, dans son naufrage, a vu l'apparition d'un ange. Il peut y avoir des apparitions, mais à chaque fois, ce n'est jamais pour ajouter quelque chose à la vérité, c'est surtout pour informer. Va chercher Pierre, dit l'ange à Corneille. Va chercher Pierre. C'est pour informer, c'est pour donner une direction, un encouragement, avertir sur un danger. Faites attention, il y a des anges qui se déguisent en, il y a des démons qui se déguisent en anges de lumière, vous le savez. Il faut être très prudent dans ce domaine-là. Je vais aller très vite maintenant. Les anges aussi peuvent accomplir des jugements de Dieu envers des hommes, envers des nations, envers Jérusalem. Il y a eu ça aussi, envers la terre. Puis les anges, ils ont porté Lazare dans le sein d'Abraham. Et ça peut vouloir nous dire tout simplement, quand nous mourrons, des anges nous emporteront. Ils sépareront les justes et les méchants à la fin du monde. C'est écrit dans l'évangile de Matthieu, parole de Jésus. Ça va ? Je vous pose deux questions. Avez-vous une question ? Et deuxièmement, voulez-vous la suite ? Hélène.
Mais au sujet des anges, là, moi je voulais savoir Méphibosheth, c'est qui alors ?
Méphibosheth ?
Ouais.
Non, mais non, ça, non,
pas d'autre que ça.
C'est un ange. Melchisédek. Ah oui, oui. Oui, oui, Melchisédek.
C'est un ange ou c'est pas un ange ?
Je ne pense pas que ce soit un ange. Mais alors, Melchisédek, roi de Jérusalem au temps d'Abraham, roi de Salem plutôt. À l'époque, c'était Salem, la paix.
Ça... Ah.
Ah. Oh, je ne suis pas très fort en islam. Bon, allez, je vais répondre d'abord à Hélène. Melchisédek, c'est le roi de Jérusalem. Il n'a ni père ni mère, dit l'Épître aux Hébreux. On a le sentiment que c'est une apparition, une manifestation de Jésus avant 2000 ans avant sa venue. Parce qu'il apporte du pain et du vin, et Abraham lui donne la dîme de ses biens. Et puis il bénit, il donne la bénédiction. Moi, je ne bénis pas, moi. Il bénit Abraham. Donc on pense que ce personnage, il a quelque chose de divin, comme un enseignement d'avance sur le Christ, quoi. Mais je ne pense pas à un ange, non.
Il avait deux fonctions.
Oui.
Le roi et souvent un sacrificateur. Et ça ne s'est jamais fait après.
Oui.
Dans l'histoire de la Bible.
Oui, oui. C'était deux choses séparées.
Je crois que dans le Nouveau Testament, ils font, je ne me rappelle plus dans quel verset, où on nous donne référence où on pourrait être dans cette lignée, où on nous dit comme quoi que...
Oui.
Vous voyez ce que je veux dire ?
C'est une dynastie.
Oui, la dynastie, et je pense que ça doit être le Christ lui-même.
Une dynastie spirituelle. Hein.
Oui, c'est ça.
Oui. Comme on est dans la dynastie de David, en somme. Oui, c'est écrit aussi, ça. Épître 7 des Hébreux, je crois. Et M. Mamo ?
Oui, parce que l'ange Gabriel va donner le Coran.
Ah oui.
C'est ça, pour ma question.
Alors moi, voilà, si un ange du ciel, voilà, je reprends Galates chapitre 1er, si un ange du ciel venait vous annoncer un autre évangile, ah bah oui, qu'il soit anathème. Et l'ange Gabriel, là, qui vient vers Mahomet lui donner
le Coran,
en plein dedans. En plein. Ah oui. Bon, c'est un exemple. Bah oui, je ne pensais pas à ça, mais c'est vrai que. Je peux lui penser en premier, avant les Mormons. Oui, encore une question ? Après, c'est comme vous voulez, on prolonge de quelques minutes si vous voulez. Nathan.
Concernant l'ange de la mort qui est cité dans l'Apocalypse, est-ce que c'est un ange qui appartient à Dieu ?
L'ange de ?
De la mort.
Je vais en parler un petit peu, parce que les anges, ils ont ce pouvoir de la part de Dieu aussi, si Dieu veut. Oui, je vais en dire un mot de ça.
Comme au temps de l'Égypte.
Comme au temps de l'Égypte, l'ange exterminateur. Ils ne sont pas méchants, c'est même encore plus loin que ça, mais... Ce n'est pas de la méchanceté contre nous. Ils exécutent les volontés de Dieu, mais ils n'ont pas un cœur comme nous, des sentiments pour eux. Ils ne voient pas les choses comme nous. Ils obéissent à Dieu. Oui.
Juste une petite question, madame, pourquoi je ne sais pas, pour dire que, par exemple, quand on est dans un tourment, on crie à l'Éternel, on appelle le secours des anges, on voit des anges me secourir, je suis perdu, je n'ai pas de solution. Et puis après cette prière, on a une paix, on a une présence, comme une présence divine, mais on ne voit rien. On est envahi par cette paix. Et après cette paix, on a une réponse. Donc, cela veut dire que les anges, ils sont au service de ceux qui demandent l'aide de Dieu et qui demandent au Père d'envoyer les anges à ce moment-là, dans ce tourment-là. Et la personne, quand elle a fait cette expérience, doit savoir très bien qu'elle a été secourue en ce moment-là par l'ange de l'Éternel.
Oui.
Parce que c'est écrit.
Oui, oui. Alors, l'ange de l'Éternel, c'est vraiment Jésus.
Non,
mais des anges.
Les anges.
Des anges.
La main de l'Éternel est toujours là.
Oui, oui. Oui, oui. Moi, je crois dans ce ministère des anges qui s'exerce peut-être à notre insu. On ne se voit pas, on ne se rend pas compte. Mais des prières peut-être sont accomplies à travers ce ministère des anges. Non pas que les anges entrent en nous comme le Saint-Esprit, justement. Ils ne rentrent pas. Mais ils nous dégagent. Ils enlèvent les flèches du malin. Ils enlèvent les flèches.
Mais on sent une paix.
Oui.
Après, on a une réponse.
Oui, oui.
C'est pas à l'instant même.
Hein. Oui, oui.
On peut avoir une réponse qui est positive à ce moment-là. On doit vraiment confesser que l'Éternel, Dieu le Père, m'a entendu au nom de Jésus-Christ. Hein.
D'accord. Oui, oui. Je pense aussi.
La question que j'avais, c'était, je voulais savoir si, est-ce que nous étions les bras et les pieds des anges ? Par exemple, si nous ne prions pas, je vais donner un exemple simple, le psaume 91, si on ne le lit pas, les anges ne peuvent pas entrer en action. Pour que les anges puissent rentrer en action, il faut que nous faisions notre pas.
Il faut prier, prier Dieu.
C'est ça.
Oui.
C'était juste la question.
Alors, je ne pense pas que Dieu qui nous aime à l'infini, je ne pense pas que si on n'est pas au top dans la prière, que Dieu nous laisse tomber. Quoi. C'est comme un enfant qui n'a pas dit « Papa, donne-moi du pain s'il te plaît ». Il n'a pas dit « s'il te plaît ». Non, pas de pain. Mais c'est toute une vie de relation avec Dieu de prière qui fait que des choses sont données parce que on est participant, on participe. Oui. C'est important, hein, ça. Oui, c'est important. Et même si j'ai oublié de demander quelque chose, le Seigneur connaît toutes choses. Hein. Il est au-deux. Il est plus grand que notre cœur. Si notre cœur nous condamne, il est plus grand que notre cœur. Il sait toutes choses.
Amen.
Madame Godin.
Elle passe par Jésus, elle passe pas par les anges.
Elle passe par Jésus, oui. Moi, je ne parle pas beaucoup des anges, mais je peux dire, dans un moment difficile... On voit le secours des anges, mais c'est tout passe par Jésus. Oui. Ah oui. C'est lui le médiateur. Ah bah oui. Ah ben c'est écrit dans l'épître aux Hébreux. Ah mais moi aussi. Mais Dieu, il partage son pouvoir, il partage sa joie, il partage. avec d'autres. Parce que pourquoi il prêche l'évangile par vous, par moi? Il pourrait vous dire restez couché, je fais tout.
Oui.
Restez couché, je mange pour vous. Non, non.
Et quand on prie, il vaut mieux dire que tu vas.
Ah, mais on ne prie pas les anges. Non. On peut simplement dire, comme David disait que l'ange de l'Éternel les chasse, etc. On peut simplement demander un secours, mais on ne prie pas les anges. Notre prière, c'est Jésus, c'est Dieu le Père. Dieu le Père, en premier. Oui, toujours. Oui. Il peut envoyer un ange. Il a envoyé...
C'est pas les anges qui vont nous protéger,
c'est Jésus. Il a envoyé... Je n'ai pas eu le temps de vous parler de tout. Non, mais quand Marie de Magdala, quand elle est venue au tombeau, elle a vu deux anges dans le tombeau qui l'ont rassurée. Que cherches-tu? Ce Jésus que vous avez vu partir reviendra de la même façon. Il va rassurer les apôtres qui disaient « Oh, il s'en va !» Rassurez-vous, il reviendra de la même manière. Mais c'est des petits secours importants, mais le grand secours, c'est notre Seigneur. S'il veut prendre des anges, il est libre. Mais il prendra des anges que pour des secours... inférieur au secours de Dieu et de Jésus. Bon, je vous repose la question. Vous voulez qu'on aille un petit peu plus loin?
Oui.
Nathan.
En fait, ma question, c'était pour savoir si toutes les créatures célestes au service de Dieu pouvaient être considérées comme des anges.
Alors, j'ai un peu de mal avec ça, moi. Parce que... il y a un mystère. Il y a les chérubins, les séraphins, les archanges, les anges, les êtres... vivants, les veilleurs, tout ça. Alors, il y a toute une catégorie, mais Dieu, vous savez, quand il fait les orchidées, il en fait 10 000 races différentes. Moi, j'en ferais que 2, ça me suffirait. J'en fais 10 000. Alors, il a peut-être fait d'autres personnages qu'on ne connaît pas bien. Mais ça ressemble toujours à des anges, quand même. Compliqué, hein? Oui. Bonne créature, Dieu vit que cela a été bon. Bonne créature. Oui, oui, oui. Quand on verra ces êtres vivants avec face de avec forme de lion, de veau, d'aigle, tout ça, mais on dira, oh, qu'est-ce que c'est beau, plus beau que ce qu'on a vu sur la terre, évidemment. Est-ce qu'on peut continuer? On va parler sur les démons. Si on finit pas, tant pis, on finira la prochaine fois. Les démons, ce sont des anges, vous le savez, qui ont péché contre Dieu et qui continuellement font le mal maintenant dans le monde. Alors l'origine des démons, Genèse 1, 31, Dieu vit que cela était très bon. Donc ça veut dire que Dieu n'a pas créé les démons. Enfin, je m'explique. Il n'a pas créé d'anges mauvais. Il a créé que du bon. Il y aurait eu donc une rébellion de nombreux anges. Parce que dans tout ce que Dieu fait, on peut pécher, on peut ne pas pécher. La liberté, dans tout ce que Dieu fait. 2 Pierre 2,4, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché. Il les a précipités dans l'abîme, où ils sont gardés pour le jugement, enchaînés dans les ténèbres. Il y a donc des anges qui circulent sur la terre, ou dans les lieux célestes, et des anges qui sont déjà enchaînés dans l'abîme. Mais même les anges qui sont sur la terre, il faut quand même que je vous dise qu'ils sont éloignés de Dieu, premièrement. Ils ont une activité limitée. Je pense qu'il faut... il faut peut-être revoir certaines impressions qu'on a sur les démons. Ils sont quand même surveillés sous la domination et ils ont perdu de leur force par le péché. Le péché nous a fait perdre beaucoup de force. Et les démons, par le péché, ont perdu aussi de leur influence et du mal. Il ne faut pas qu'on les craigne si nous sommes au Seigneur. Alors, Je ne sais pas, c'est pas sûr, mais il y a ce texte d'Ésaïe 14, qui est un chant sur le roi de Babylone qui est mort et qui descend dans la mort. Et ce chant, on a l'impression qu'il s'applique à Satan. On n'en est pas sûr à 100%. Parce que on avait des façons autrefois de parler sur la mort du roi, de Tyr, Ézéchiel 28, Ésaïe 14, le roi de Babylone. On avait des façons de parler qui étaient un peu exagérées. Mais quand on lit Ésaïe 14, tu disais, je monterai au ciel. Le roi de Babylone qui dit ça, mais c'est vrai un peu aussi. Je serai semblable au Très-Haut. On a l'impression, quand on lit ce texte, qu'il s'adresse à Satan. Parce qu'on a l'impression qu'il parle d'une créature angélique, très puissante, très haut placée, qui aurait été déchue. Le péché de Satan, c'est l'orgueil. Là, il est dit, je serai semblable à Dieu. Je serai comme Dieu. Je monterai plus haut que Dieu. Égal à Dieu, dans sa nature, dans son autorité, c'est grave. Satan est donc devenu le chef des démons. Satan et ses anges. C'est d'abord l'accusateur, nuit et jour, inlassablement. Devant Dieu, il nous accuse. Ils ne font pas ça, ils ne font pas ça, ils disent cela. Satan veut dire adversaire. Dans le Nouveau Testament, on le voit dans Matthieu 4 avec la tentation dans le désert. Arrière de moi, Satan. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. On l'appelle aussi Belzébul, Belzébuth, ce qui veut dire le dieu du fumier ou le dieu des mouches. C'est pas tellement appétissant. On l'appelle aussi le malin. Allons rapidement, Satan est à l'origine du péché. C'est le premier pécheur. C'est le meurtrier dès le commencement. Et dans toutes les étapes de l'histoire du monde, il s'est manifesté. Et meurtrier, ça veut bien dire que son intention, c'est la destruction de l'humanité. Et on voit les guerres, les suicides. Il est à l'origine du péché et il a essayé même d'entraîner Jésus dans le péché, dans le désert de la tentation. La folie. Mais il a quand même tenté. Ses tactiques, c'est surtout le mensonge. C'est le menteur. Le séducteur. Le meurtre. Il tue le courage, l'espérance. Il tue la vie intérieure. Un meurtrier. Il conduit les hommes à se détruire. Je revoyais encore l'autre jour une émission sur la Deuxième Guerre mondiale. Je me disais, mais j'en ai vu beaucoup d'émissions, pas des films de cinéma, mais des documentaires réels. Je me dis, mais quelle autodestruction, ça c'est vraiment signer Satan. Signer Satan. Et puis ces manœuvres pour empêcher de voir la lumière du Christ. Il aveugle l'intelligence des hommes. Il met dans leur cœur le doute sur Dieu, la culpabilité, la maladie. On peut donner des maladies, des calomnies, pour faire obstacle au témoignage du Christ. Il faut que ça bloque dans les cœurs et que le service de Dieu s'arrête. Donc, le but de Satan, c'est de détruire toutes les œuvres de Dieu, toutes, l'Église, les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, tout, il faut que ça soit détruit. Alors il n'arrête pas, c'est le bombardement. Mais quand même, je veux vous dire que les démons sont soumis à Dieu. Dieu est souverain, il est au-dessus, hein. Il n'est pas débordé. Hein. Ils ont un pouvoir limité. Vous vous rappelez Job, hein. Job, il a été attaqué par Satan, mais Satan allait selon que Dieu le permettait. Sinon, il n'y allait pas. Et aujourd'hui, ils sont quand même soumis, ils sont enchaînés, ils sont diminués. Le péché les a affaiblis. Ils ont un pouvoir inférieur aux anges fidèles. Ils en ont perdu. Il faut le dire. Ils ne peuvent pas connaître l'avenir, à moins de lire la Bible. Alors, quand je lis la Bible, je vois l'avenir, et eux, ils connaissent, parce qu'ils sont très intelligents. Moi, j'existe depuis très peu de temps, mais eux, ils existent depuis longtemps. Ils ont pu apprendre beaucoup de choses. Ils ont une culture, un développement, je vous dirais, intellectuel, entre guillemets, que nous n'avons pas. Donc, ils peuvent connaître aussi par les Écritures, mais ils ne peuvent pas connaître l'avenir que Dieu cache. Ils ne peuvent pas lire dans nos pensées. C'est important. Justement, Dieu dit dans Ésaïe 46, contrairement aux faux dieux, les faux dieux c'était un petit peu les démons. Derrière des faux dieux, il y a des démons d'ailleurs. Contrairement aux faux dieux, dit le Seigneur, moi dès le commencement, j'annonce ce qui doit arriver. Pas eux, ils ne peuvent pas le faire. Moi j'annonce ce qui doit arriver, car je suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. Donc seul Dieu connaît l'avenir. Même la venue de Jésus, les anges ne savent pas. Les anges ne savent pas. Le Père seul le sait. Ils ne sont pas, les démons, ils ne savent pas, ils ne sont pas omniscients. Ils ne savent pas tout, ils ne sont pas partout, à la fois. Ils ne sont pas Dieu. C'est pas le Dieu, Satan, c'est pas le Dieu du mal. Je voudrais que ça soit bien gravé dans votre esprit. C'est pas le Dieu du mal. Si on dit ça, on est sur une fausse voie, on veut dire qu'il y a deux dieux. Et ça, c'est quelque chose qui est anti-biblique et qui déplaît à Dieu. Moi seul, je suis Dieu. Et concernant les secrets de nos cœurs, quand le roi Nebuchadnezzar, il a eu le rêve d'une statue, vous savez, la statue qui représente tous les grands empires. Le roi, il a fait amener qui ? Les astrologues, les devins, les magiciens. Et personne n'a été capable. Et après, il a fait appeler Daniel. Et Daniel, il a dit, c'est un secret que les mages, les magiciens, les devins, les astrologues sont incapables de découvrir. Dieu seul le peut. Donc il y a des secrets qu'ils ne connaissent pas. On dirait, mais la voyance. Il y a des gens qui sont capables de lire l'avenir. Ben, ce sont les démons qui voient ce qui se passe. Je vous donne un exemple, enfin, il ne faudra pas rire. Si ce matin un démon m'a observé, il a vu ce que j'ai mangé. Non. Et finalement, un voyant peut me dire ce soir... Je n'irai jamais voir un voyant, rassurez-vous, jamais. Parce que ça, il y a un danger, là. Il peut me dire, ce matin, vous avez mangé une tartine de confiture à l'orange. C'était même de la marmelade d'orange. Je dirais, mais oui, vous savez tout. Parce que le démon voit. Mais le démon ne peut pas savoir ce que je pense. Parce qu'il y a des limites. Bon, c'est pour ça qu'il faut prier dans son cœur. Il ne faut pas se laisser séduire, éblouir par l'occultisme. Ils observent, évidemment, mais ça ne veut pas dire qu'ils savent tout. Alors, rapidement, l'œuvre des démons dans l'histoire du salut, l'œuvre du diable, du monde invisible. Les démons, pour moi, ils sont représentés dans l'Ancien Testament. On n'en voit pas beaucoup de démons dans l'Ancien Testament. Mais ils sont représentés, je pense, par les faux dieux. Où il y avait des idoles, et l'apôtre Paul, il dit, attention, ce que vous sacrifiez à des idoles, vous le sacrifiez aux démons. Ce n'est pas une idole, c'est rien du tout, c'est de la pierre, c'est de la brique, c'est du métal, c'est rien du tout, c'est néant. Non. Derrière le culte aux idoles, il y a une ouverture que le diable ouvre. Vous sacrifiez aux démons. Et c'est pourquoi dans les batailles d'Israël avec les peuples idolâtres voisins, c'était des batailles physiques, ça se bagarrait dur quand même, et des batailles spirituelles. Et quand David il est parti à la guerre contre les Philistins une fois, les Philistins ils les avaient pris avec eux, toutes leurs idoles, leurs gris-gris, en disant, avec cela, David sera vaincu, mais Dieu lui a parlé. Mais vous, il y a des conflits, il y a des combats, il y a des bagarres dans la vie qui sont des bagarres spirituelles. On ne voit pas tellement de gens démonisés dans l'Ancien Testament. On les voit surtout dans l'Évangile. On a l'impression dans l'Évangile que tous les démons se sont rassemblés, beaucoup de démons se sont rassemblés pour faire obstacle à Jésus. Parce qu'on voit souvent des enfants, des personnes qui sont tourmentées par des démons. Et Jésus commande avec autorité, et les démons sont chassés, ils lui obéissent. Ce qui veut dire que Jésus a ligoté l'homme fort, Satan, il est rentré dans la maison de Satan, c'est-à-dire dans le monde, notre monde, et il a libéré les gens, vous et moi, il nous a libérés. Les démons chassés, c'est la preuve du royaume de Dieu. Dans la nouvelle alliance de maintenant, le Seigneur a donné à ses apôtres, aux 70, aux 12 apôtres, il a donné aussi autorité sur les démons. Mais on voit quand même, c'est étonnant, c'est un peu surpris par ce que je vais vous dire, on voit quand même beaucoup moins dans le Nouveau Testament, dans les épîtres et les actes, des cas de possession. On voit beaucoup moins, on voit presque pas. Un ou deux. C'est étonnant quand même. Il n'y a pas de don d'exorcisme. Il y a des exorcismes. Parce que le Seigneur peut donner une parole d'autorité, notamment à cette femme qui avait un esprit de Python, qui devinait. Eh bien, l'apôtre Paul, il a été fatigué. Et elle n'arrêtait pas de lui dire « Ces hommes vous annoncent la voie du salut ». Il a chassé le démon. Mais on ne le voit pas souvent. Je pense que prêcher la foi fait fuir le diable. Amen. Moi, je le crois. Parce que prêcher Jésus-Christ crucifié, ressuscité, revenant, je pense que les puissances des ténèbres sont ébranlées par ça. Ne supportent pas. Ça, c'est leur défaite. Et puis, un petit peu plus loin, dans le millénium, Satan sera enchaîné. Alors, nos relations avec les démons. Sont-ils actifs aujourd'hui? Voilà. Je pense qu'ils sont toujours actifs. On ne voit pas les choses comme au temps de Jésus, où il y avait vraiment une assemblée de gens possédés. Là aussi, le mot, il faut que je vous l'explique, moi je n'aime pas ce mot-là, parce que ce n'est pas un mot biblique. Je ne l'ai pas vu dans la Bible. Je pense qu'il faut plutôt dire des gens sous influence diabolique. Mais le mot « possédé » n'est pas dans la Bible. Je vous en dis un petit mot après. Parce qu'aujourd'hui, alors, il y a les démons toujours à l'œuvre, puisqu'il faut avoir les armes de Dieu pour résister aux esprits méchants dans les lieux célestes. Ça, c'est la vérité. Puis aujourd'hui, il y a aussi une tendance à dire, mais il n'y a plus de démons aujourd'hui. Les théologiens disent ça. Il n'y a plus de démons. Aujourd'hui, le démon, c'est les compagnies financières, le pétrole, c'est les dictatures, ça c'est le démon. Oui, bien sûr, le démon il se sert de tout ça. Mais le démon, le diable, exerce un travail de destruction auprès de beaucoup de gens aujourd'hui. Regardez tout ce qui se passe dans le monde, toutes les guerres, toute la panique. Et le diable aveugle les gens pour qu'ils ne voient pas. Vous savez, l'art du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Il y a assez peu de textes sur ce combat qu'on mène, ce combat spirituel. On a l'impression que le nerf de la guerre du combat spirituel, c'est la vie sainte, c'est la prière. Résister au diable avec une foi ferme, dit l'apôtre Pierre, chapitre 5, verset 19. Résistez-lui avec une foi ferme. Je pense que le combat, il se situe là. Et on ne voit pas dans la Bible d'exemple, par exemple, qui traite les maladies, qui traite les difficultés de la vie ou les péchés comme des démons. Esprit de gourmandise. Non, on ne voit pas ça dans la Bible. Esprit. Non. À Corinthe, il y a eu une division à Corinthe. Et Paul dit qu'il faut chasser le démon de la division. Non, on ne le voit pas. À Corinthe, il y avait un inceste, vous savez, qu'il y a eu un chrétien qui a commis un péché épouvantable. Mais Paul ne dit pas qu'il faut chasser l'esprit d'inceste, le démon d'inceste. Je pense qu'on a exagéré sur... ça me gêne parce qu'on n'aura pas le temps d'en débattre beaucoup, ou alors on s'arrête, on recommence. On a un peu exagéré dans ce domaine-là. On a mis des choses naturelles parfois, ou des choses de péché, parce qu'on est responsable de nos péchés, on les a mis sur le compte de démons. Comme si on n'était plus capable de pécher. Si on pêche, c'est le démon qui pêche. Puis il y a aussi des gens qui ont vu des démons de territoire. Faire attention, hein. Faire attention à tout ce qu'on annonce, parce que le diable, il essaye de brouiller les cartes par tous les moyens. Donc il faut chasser d'un territoire, de la Bretagne par exemple, il faut chasser les démons pour pouvoir... Moi je crois qu'il faut résister au mal. Il faut prier pour que le mal soit vaincu, mais s'attaquer aux démons en cherchant le nom du démon, où il est, etc. On est dans le monde invisible. Les apôtres, Paul est allé à Éphèse. À Éphèse, alors là, c'est le bouquet. Éphèse, il y avait Diane. Vous connaissez Diane ? La déesse des Éphésiens. Et puis là, c'est un pouvoir satanique à Éphèse. Eh bien, l'apôtre Paul, il n'a pas chassé les démons dans toutes les rues, il a simplement annoncé l'évangile. Et les gens ont cru. Donc c'est un exemple pour nous. Ce qu'il aurait pu dire, je vais passer sur tous les ponts, je vais aller sur toutes les arcades, je vais chasser tous ces démons de Diane. Là. Grande est la Diane des Éphésiens, vous vous rappelez? Le foin qu'ils ont fait. Il y a un combat. Un combat de résistance. Surtout un combat de défensive, plus que d'offensive. Toutes les armes de Dieu sont des armes défensives. Il y a un combat, mais l'essentiel, ce sont nos actions. C'est la sainteté, c'est vaincre le péché. Pour ne pas que le diable trouve en nous un appui. Si on pêche, c'est une ouverture au diable. Mais il y a quand même, Paul le dit bien dans 1 Timothée 4, il y a des esprits séducteurs et des doctrines de démons aujourd'hui. Il y a des fausses doctrines diaboliques aujourd'hui. Puis il y a aussi des frères et des sœurs qui peuvent tomber dans les filets du diable. Ah, ce verset, il m'a toujours fait froid dans le dos. 2 Timothée 2,24. Ceux qui s'opposent au Seigneur, qui causent des problèmes dans l'Église, ils tombent dans les pièges du diable qui soumet ses gens, ses frères, à sa volonté. Alors, il faut prier pour que, s'il est possible encore, ils se dégagent. Donc, c'est quand même... Il y a des parts sérieuses. Hein. Et puis, c'est le Dieu du siècle. Hein. Et tout ce qui s'oppose à l'œuvre de Dieu, malgré tout, il y a une influence diabolique. Il y a derrière cela, il y a toujours une odeur de Satan qui passe dans tout ce qui résiste à la marche de Dieu, la marche de l'Église. Vous avez encore 5 minutes ? Non, on va peut-être s'arrêter. Hein. On arrête ? Si vous posez des questions... Ah oui, j'ai une question après à vous poser. Un chrétien peut-il être possédé ? Nathan.
C'est pas ma question.
Ah. Toi, je connais ta pensée. Mais c'était la question que j'attendais, toutes les personnes. Donc, je ne connais pas ta pensée. Un chrétien peut-il être possédé d'un démon ? Alors, faisons attention au mot possession. Ce n'est pas un mot juste. Un chrétien peut être sous une influence diabolique, une influence démoniaque, mais il n'y a pas de mot pour posséder. Peut-être que vous pensez, vous, à une possession où on n'a plus de liberté, où on est complètement, notre volonté est complètement dominée, on ne sait plus faire le bien, on ne sait plus faire le mal, on ne sait plus rien. Alors, un chrétien, non, pas ça. Il peut y avoir une influence, parce que si on commet le péché et si on pratique son pratique, le diable, il a un appui, hein, comme Judas, il avait un appui là quand même. Mais une possession comme vous le pensez, non, parce que le péché n'a pas de pouvoir sur nous, parce que nous sommes habités par le Seigneur. Même si nous avons commis des péchés, le Seigneur ne nous rejette pas, c'est un Dieu qui pardonne. Par conséquent, notre cœur est habité Et on ne peut pas être habité à la fois par Dieu et par le diable. C'est important à dire, parce que vous savez, il y a eu des drames. Je ne peux pas vous dire tous les drames qu'il y a eu avec cette pensée qui a circulé dans les années 70, les chrétiens peuvent être possédés. Oh, misère de misère. On nous remettait tout en question, on ne croyait plus en Dieu, on remettait tout le salut en question, tout ça. C'est l'œuvre de Satan. Ça, c'est l'œuvre de Satan. Évidemment, faut pas. Un chrétien, il se garde. Hein. Il se garde. L'apôtre Paul, il dit, n'allez pas dans ces repas, dans les temples païens, manger avec les idolâtres, manger des viandes sacrifiées à des idoles, parce que c'est sacrifié à des démons. Et Paul, il dit, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Voulez-vous provoquer la jalousie du Seigneur ? Il vous aime et puis il ne veut pas que vous vous mettiez à genoux devant des démons. Je reviens à la parole que Yves avait dit dans Jude, chapitre verset 9, que le Seigneur te réprime. Là, il chasse Satan, mais il ne va pas au-delà de ce qu'il peut faire, que le Seigneur te réprime. Et nous devons faire attention de ne pas nous mettre chasseurs de démons. C'est très dangereux. Vous connaissez les fils de Séva ? Sacrificateur de l'Éternel, principal sacrificateur, un homme de Dieu, il avait des enfants qui, en voyant l'apôtre Paul, il se mettait à chasser les démons sur un homme. Et l'homme s'est retourné, il a dit, je connais Paul, je sais qui est Jésus, mais vous qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Ils se sont jetés sur cet homme, ils l'ont déshabillé, ils l'ont battu, parce qu'on ne peut pas prendre une autorité que l'on n'a pas. Je vais être obligé d'arrêter, hein, c'est terrible. Je vous dire encore que Jésus, par sa mort, a réduit à l'impuissance le diable, parce que, étant enfant de Dieu, le diable n'a plus de pouvoir sur nous. Vous comprenez ? Le diable a toujours gardé, il a gardé sa virulence contre le monde. Mais sur les enfants de Dieu, il n'a plus ce pouvoir, puisque nous sommes non plus aux ténèbres, mais à la lumière. Il est défait. Il a dépouillé, il a désarmé les puissances, les autorités, les dominations en triomphant d'elles par la croix. Il les a désarmés. Le diable n'a plus d'armes contre nous. Il n'a que la séduction, le mensonge. Faisons attention quand même. Mais il ne faut pas craindre au-delà, malgré que c'est un monde qui nous échappe complètement. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça, c'est dans 1 Jean 4. Et puis, il y a cette parole de Paul, par la foi, par le bouclier de la foi, vous pouvez éteindre, ça c'est Éphésiens chapitre 6, vous pouvez éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Toutes, oui. Amen, toutes. Amen. Oui. Oui.
Ce que je voudrais demander, c'est est-ce par un manque d'amour que Dieu n'a pas préparé un plan de salut pour les anges, puisque bon, dans 1 Corinthiens 13, il est écrit que l'amour pardonne tout.
Je n'ai point de réponse.
Par rapport aux anges,
je parle. Ah oui, oui, oui. Nous sommes dans nos limites lourdes et étroites et tentées par le diable en plus. Ils ont touché, ils ont presque. Ils ont. Comme si ils avaient touché Dieu, pris Dieu, puis après ils ont dit : on ne veut pas de toi. C'est ce que. Si on disait cela, on aurait le même châtiment.
Pardon, parce que moi seulement, je voulais dire, pour les anges, leur salut. Pourquoi le salut pour les anges ? Parce que les anges sont esprits. Et nous, quand nous mourrons à la résurrection, nous serons aussi esprits. Nous serons semblables aux anges. On n'aura plus le corps que nous avons.
Ah si ?
On sera l'esprit.
Non ?
Non.
nous aurons notre corps transformé en chair et en os.
Ça sera transformé.
Oui.
Parce qu'il n'y aura plus les sexes.
Il n'y aura plus les
Les hommes et les femmes.
Moi, je crois que oui, ma chère sœur. Oui, ce sont
et
des
nous,
esprits.
On a été
corps,
dans le péché.
Corps âme,
c'est
esprit.
Par la rédemption.
Oui.
On a été réconcilié avec le Père.
Oui, oui. Mais
que les anges qui ont péché ont été chassés,
oui,
du royaume et ils sont descendus sur la terre.
Dans les abîmes. Il y a une partie qui est enfermée.
Lucifer, c'est l'ange déchu.
Alors et Lucifer, c'est pas dans la Bible. Ça veut dire l'étoile du matin. C'est la traduction latine. C'est la traduction latine, mais chez nous, c'est l'astre brillant. Mais Lucifer, ça veut dire fils de lumière. Lucie, c'est la lumière. Lucien, c'est la lumière. On tourne la page, ma sœur. On tourne la page. On pour arriver au but. Enfin, encore une petite chose sur les démons. Je pense à Paul qui avait un ange de Satan qu'il n'a pas chassé. Il n'a pas pu le chasser. Un ange de Satan qui le souffletait, des claques, pour l'empêcher de s'enorgueillir. Alors, quelle est c'est une écharde qu'il avait. Alors, quelle est cette écharde? On a cherché longtemps. Mais si on lit un verset plus loin, on trouve. Moi, je trouve qu'on trouve tout de suite. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, les calamités, les persécutions, les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et je pense que l'ange de Satan, c'était un ange qui mettait que des obstacles dans la vie de Paul. Persécution, détresse, abandon, des gens qui l'abandonnaient, qui le reniaient. Et ça, c'était... sur les années, il était fatigué, mais c'est là qu'il était fort. Et là, il n'a pas chassé en disant « Au nom de Jésus, je te chasse ». Il l'a pas. Parce qu'il ne pouvait pas le faire. C'est Dieu qui a permis qu'il soit accompagné ainsi. Bon, moi je pense qu'on a tout dit. Ah oui, aussi sur les démons, attention au spiritisme, n'assistons pas à des séances occultes, même à la télévision, qui peuvent donner des troubles spirituels. On ne peut pas chasser les démons comme ça, c'est pas de la bagatelle. Faisons attention à tout ce qui est caché derrière l'occultisme, la magie, etc. Vous relirez Deutéronome 18, qu'on ne trouve chez toi personne qui consulte, même ceux qui consultent les morts, ceux qui sont en relation avec les morts. C'est faux, ils ne sont pas en relation. Il y a quelqu'un qui sert d'intermédiaire, de médium, et lui, il est possédé d'un démon. Et il parle... comme si c'était le mort qui parlait. Moi, je vous dis ça, mais on ferme la parenthèse. Et quand on touche à ça, on se salit. Oui, Nathan Jude.
Bon, vous n'avez pas répondu à ma question concernant l'ange de la mort. Mais bon,
j'ai ajouté
au fait dessus aussi. Dans 1 Samuel 16, il est dit que l'esprit méchant de l'Éternel, en fait, vient sur Saül. Donc, je ne sais pas. L'esprit méchant de l'Éternel.
L'esprit de
méchant de l'Éternel.
Ah oui. Oui, mais je ne voulais pas tout dire tout ça. Oui. Je ne vous ai pas dit que... Quand on lit Apocalypse chapitre 9, il est dit qu'un ange va ouvrir les portes de l'abîme et des sauterelles vont sortir et leur roi, c'est Apollyon, Abaddon, c'est Satan. Les sauterelles vont sortir de l'abîme, et l'abîme dans la Bible, c'est le réservoir des démons. Et bon, il y a ce texte-là dans Apocalypse 9, Apocalypse 16 aussi, il y a des démons, il y a trois démons qui vont sortir, et qui vont aller vers les rois de la terre, qui vont faire de grands miracles sur la terre, des prodiges extraordinaires, et qui vont rassembler les peuples contre le Christ. Alors, on a l'impression qu'à la fin des temps, comme au temps de Jésus, il va y avoir une recrudescence fantastique des démons. Là, ils sont enfermés, là, en ce moment. Il y a une partie qui sont en train de circuler, il y a une grosse partie qui est enfermée dans les ténèbres, et à la fin, dans l'abîme. C'est pour ça que parfois, Jésus, quand il venait vers eux, il disait, ne nous envoie pas dans l'abîme. Pas dans l'abîme, surtout. Parce que là, pouf, on n'est plus rien. Mais à la fin, l'abîme s'ouvre, et le Seigneur laisse ses démons accomplir un travail mystérieux envers des gens qui ne veulent que ça. Parce que c'est écrit à la fin, Apocalypse 13, ils adoreront le dragon. Les hommes, toute la terre adorera le diable. On y va, hein ? Alors, la porte s'ouvrira. Ben voilà, paf ! Ça va ? Vous tenez le coup quand même ? Pas facile, mais vous ne serez pas là, vous ne serez pas là pour le voir. Nous serons avec le Seigneur. Ah ben oui. Bon, écoutez. Ah oui, oui, oui. Ah oui, parce que là, personne ne pourrait résister. Ils tortureront, ils tourmenteront les gens comme des...